podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les rencontres.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette 6e édition du Paris Podcast Festival. Je suis Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr où j'anime notamment le podcast Sans Algo, qui est un podcast de recommandation de podcasts où j'interview des podcasteurs et des podcasteuses sur leur méthode de travail. Et ça tombe bien, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Philippe Collin, qui est journaliste, documentariste, auteur de biographies radiophoniques à France Inter. Bienvenue.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous et à toutes.
On va parler de vos portraits radiophoniques que vous faites depuis un moment maintenant, et notamment de la série Léon Blum, une vie héroïque, dont vous venez de publier l'adaptation en livre chez Albin Michel. Et je le dis maintenant et je le redirai après, à l'issue de la rencontre, il y aura une dédicace au foyer moderne au deuxième étage du bouquin, si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez le faire dédicacer. Voilà, Philippe sera là pour le faire. Mais avant de parler de radio et de Léon Blum, parlons un peu de vous. Comment vous en êtes venu à travailler à la radio ?
Comment j'en suis venu à travailler à la radio ? C'est le hasard. Vraiment, c'est le hasard, c'est des rencontres. J'écoutais pas du tout la radio gamin, et encore moins France Inter. J'y suis entré par une connaissance qui m'a fait rentrer en stage. J'avais 23 ans, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, on rentre en faisant des cafés et puis des fiches de lecture. Et puis j'ai tracé ma route à France Inter. Mais c'était assez amusant parce que je suis arrivé à France Inter, qui est une radio un peu particulière dans la vie des gens. Je l'ai appris depuis, 23 ans plus tard. Mais tout le monde se connaît. Enfin, on connaît les producteurs, on connaît qui est José Arthur, on connaît qui est Jean-Luc Hesse, on connaît qui est Claude Villers. Mais je ne connaissais personne. Donc c'était assez amusant parce que je disais, ah, mais c'est qui en fait ? On me dit, bah, c'est José Arthur. Je ne sais pas qui c'est José Arthur. Donc c'était assez amusant en fait quand je suis entré à Inter. Voilà.
Si Wikipédia dit vrai, vous êtes entré à Radio France en 99. En 24 ans, vous avez animé des chroniques dans À toute allure de Gérard Lefort, dans Charivari, puis La bande à Bono de Frédéric Bonneau, avant d'avoir vos propres émissions, le mythique Panique au Mangin Palace, dont je sais qu'il y a des fans dans cette salle, puis Panique au ministère psychique, La cellule de dégrisement, 5-7 boulevard, L'œil du tigre, pour ne citer qu'elle. Et puis en 2020, vous quittez l'antenne pour faire des podcasts natifs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter l'antenne ?
Cette longue liste, Mathilde.
Vous aviez fait le tour de ce que vous pouviez
faire à
la radio ?
Je commençais à m'ennuyer en vérité. Et en fait, j'ai eu un rapport à la radio qui était une radio très produite. Quand on dit produite, ça veut dire écrite, très travaillée au son, etc. Notamment Panique au Mangin Palace, c'était une radio très produite.
Qui est une collection d'archives autour d'une thématique.
Voilà, et une écriture particulière, un habillage particulier. Et j'avais commencé à perdre un peu ça pour des raisons assez simples. C'est que le podcast a redonné vie à cette écriture. Pas qu'à moi, à beaucoup de gens autour de moi. Mais je commençais à m'ennuyer un peu à l'antenne. J'avais fait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'horaires, beaucoup de types d'émissions. Et puis est arrivée cette opportunité d'une réinvention avec une nouvelle équipe, avec Yolaine Ballet, que j'aperçois juste là, voilà qui est arrivée finalement, et qui est une manière de renouer avec cette radio que j'ai adorée et que Yolaine partage avec moi. D'ailleurs, c'est des écoles, à Inter, il y a des écoles qui nous apprennent à travailler comme ça. Et c'était une opportunité. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est, elle et moi, je crois, très heureux de cette aventure. Parce qu'on a renoué avec ce qui nous a défini au départ, finalement. Et presque, on est les héritiers de gens qui nous ont précédés. Et je croyais que c'était mort, en fait, ça. Je croyais qu'on ne pourrait pas revivre ça. Et le podcast nous a offert ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu à la radio, soudain, des moyens, puisqu'on parle de ça aussi. Ça veut dire du personnel, ça veut dire des moyens techniques, ça veut dire du temps. Une série comme ça, c'est 5 mois de travail. Une hebdo, c'est 1 jour et demi de travail. Vous voyez ? Une quotidienne, c'est 4 heures de travail. Bon, là, c'est 5 mois de travail. Ça demande du temps, donc forcément un peu d'argent. Et on pensait que c'était fini, en fait. Parce que la radio, c'était micro-disque, comme on dit chez nous. Maintenant, c'était un invité micro-disque. Et soudain, le récit est revenu par le podcast. Et nous, on s'est retrouvés à un âge... agréable, en tout cas, de l'expérience acquise, c'est ça que je veux dire, qui permettait de rejouer cette radio-là. Donc c'était une opportunité géniale, en vérité, que ces podcasts.
Mais c'est aussi arrivé à un moment où, au sein de Radio France, c'était plus prestigieux de faire de l'antenne que de faire des podcasts.
Je crois que ça l'est encore pour beaucoup de gens. L'antenne reste l'antenne, malgré tout, notamment les horaires du matin. Enfin, la radio, c'est sacré dans beaucoup de vies de Français et de Françaises, et surtout inter. Donc ça reste quand même une sorte de... Comment dire ? J'allais dire... une sorte de sacralité, mais un peu quand même. Donc aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'ai arrêté l'antenne. Mais moi, mon plaisir, aujourd'hui, je sais où il est. Et je n'ai aucune envie de retourner à l'antenne, mais aucune. Pour tout vous dire, ils m'ont tendu une perche il y a quelques mois pour revenir à l'antenne, peut-être refaire de l'histoire inspirée de ce qu'on fait, et je ne veux absolument pas. Parce que je veux garder ce que j'ai acquis. Ces 5 mois de travail, ces équipes, ce temps, ces aventures, ce livre qu'on a fait avec Nicolas, qui est au premier rang aussi, qui est l'éditeur chez Albin Michel. Voilà, ça permet ça, en fait, le podcast. L'antenne ne permet pas ça du tout. Voilà.
Vous avez écrit et incarné des documentaires sur Napoléon, Molière, Philippe Pétain, Vladimir Poutine, Léon Blum, Simone de Beauvoir, Cléopâtre, Jean-Marie Le Pen, Jeanne Dubarry et maintenant des femmes résistantes. Comment vous choisissez vos personnages ? C'est quoi les critères ?
Les critères. Alors, ça s'est construit au fur et à mesure. Donc, les personnages sont révélés d'eux-mêmes. Et finalement, peut-être que le seul lien qui les relie tous, c'est trouver des personnalités du passé qui éclairent notre présent. C'est-à-dire qu'on se pose comme question, qu'est-ce qui tiraille la société ? Qu'est-ce qui nous pose question ? Qu'est-ce qui nous pose problème ? Où sont les fractures ? Et on essaye de voir à travers des vies ce qui peut apporter des réponses. Voilà. Ça, c'est la trame principale, on va dire. Alors, on n'est pas dupe, c'est-à-dire que l'histoire ne change rien. On n'est pas là pour apporter des solutions du tout. Hein. L'histoire ne sert pas à ça. On est là pour essayer de donner un peu des clés pour lire le présent. Voilà. Donc c'est un peu ça la trame qui nous motive, je crois, qui nous conduit. Voilà. Et après, je vous dis, elles se sont fabriquées au fur et à mesure. C'est-à-dire que pendant qu'on fabriquait Pétain, est apparu le fait de peut-être faire Jean-Marie Le Pen. C'est qu'on avait le sentiment qu'il y avait une traçabilité qui se dégageait. Il y avait des origines du national-populisme, par exemple. Et on s'est dit, tiens, pendant qu'on faisait Pétain, on a pensé à Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est des choses toutes voilà, qui parfois naissent en faisant. Voilà.
Vous dites on fait de l'histoire, mais vous traitez des personnages morts, certains depuis très longtemps, comme Cléopâtre, mais aussi des personnages en vie. Je pense notamment à Vladimir Poutine ou Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on traite de la même manière d'un personnage qui est vivant un personnage qui est mort ?
Non, forcément non. D'ailleurs, c'est dangereux de faire du vivant.
Il y a des risques de diffamation, par exemple ?
Par exemple, mais il y a aussi le fait que l'histoire n'est pas finie. Donc, en général, les historiens sont très frileux. Donc, il a fallu qu'on triche un peu, par exemple, sur Vladimir Poutine et Jean-Marie Le Pen. Sur la fin des épisodes, il y avait des historiens qui acceptaient encore d'être là, mais il y a des journalistes qui sont venus compléter les castings. Est-ce que je peux comprendre ? Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, pour tout vous dire, de réitérer des personnages vivants. Voilà. Je pense que parce que tout d'un coup, les castings ne sont plus les mêmes, c'est un peu compliqué, on ne va pas au bout, on ne connaît pas la fin de l'histoire, les historiens ne veulent pas juger le présent et on les comprend, ils ne sont pas là pour ça. L'épaisseur n'est pas assez. Le temps n'a pas encore assez fabriqué son miel de pouvoir faire de l'histoire. Donc, je ne suis pas sûr qu'on y retourne, à vrai dire. Voilà. Là, il y avait une urgence. Pareil, on fait Pétain, et puis, au moment où on finit Pétain, Poutine envahit l'Ukraine. Et on se dit, tiens, c'est étrange, il y a chez Poutine une sorte de fascination sur la Russie éternelle. Ce qui est toute la trame de Philippe Pétain. La France éternelle. Donc on a été happé par l'actualité et on a monté une sorte de casting d'historiens à toute urgence, à vrai dire, et on s'est mis à produire Poutine pour répondre à une urgence de l'actualité. Mais on n'avait pas du tout prévu Poutine. Voyez donc, et bon, c'était intéressant à produire. J'ai adoré produire ça avec Violaine, mais voilà, c'est pas la même chose que de faire Blum ou de faire Beauvoir ou de faire Les Résistantes. Pardon.
C'est intéressant la question du casting des invités et des historiens. Comment vous choisissez les historiens, historiennes qui interviennent ?
Alors ça, c'est vraiment très important parce que l'histoire, elle est faite de chapelles. L'histoire, c'est une science qui répond à des process scientifiques. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est une science sociale qui a des règles. Et dans le cadre de ces règles-là, on peut débattre. Et dans le cadre de ces règles-là, il y a des gens qui ont des points de vue différents, des sensibilités différentes, des chapelles différentes. Et je crois que notre rôle en tant que médias de service public, c'est d'intégrer dans ces castings toutes les sensibilités dans le cadre des règles scientifiques. Je le redis parce que l'histoire est aujourd'hui au cœur d'enjeux mémoriels extrêmement forts dans le présent, notamment en termes politiques. Et il y a beaucoup de gens qui se disent historiens, qui ne le sont pas et qui racontent en vérité n'importe quoi. Je vais donc le redire, Philippe Pétain n'a pas sauvé les Juifs français, ni même les Juifs tout court. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien de le redire parce que, au nom de soi-disant une historiographie, il aurait sauvé les Juifs en France, ce qui est complètement faux. Je ne vais pas refaire le débat ce soir ici, mais il y a des raisons scientifiques qui expliquent pourquoi les Juifs français ont été moins déportés que les autres Juifs en Europe. C'est une réalité, mais Philippe Pétain n'y est pour rien. Donc, dans le cadre de règles scientifiques de sciences sociales, on peut avoir des points de vue différents. Prenons un exemple très concret, épisode 2 sur Pétain, Première Guerre mondiale. Nicolas Hoffenstadt, historien plutôt marqué à gauche, on va dire, pour faire vite, Stéphane Audouin-Rouzeau, historien plutôt marqué à droite, pour faire vite, ont des points de vue contradictoires dans le cadre de règles scientifiques. Et ils ne sont pas d'accord sur les mutins de 17. Et ils ne sont pas d'accord sur Philippe Pétain dans son rapport aux hommes, etc. C'est extrêmement intéressant de les entendre tous les deux. Mais ils respectent les règles, notamment l'exhaustivité des sources, par exemple, ou le fait que, en effet, la source est la règle. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Mais donc, dans ce cadre-là, avec Irène Menahem, qui est peut-être là ce soir, je ne sais pas, on s'occupe de monter un casting. En général, on essaie d'avoir les meilleurs. On essaye de faire ça, on a la chance
qu'il y ait... Les meilleurs francophones, puisque oui, vous francophone. Avez la barrière de la langue.
Absolument, on a cette barrière-là, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ça nous empêche d'aller faire des figures non francophones. Parce que ce serait bizarre de faire, je ne sais pas, un Churchill qu'avec des historiens français. Non pas qu'on ne pourrait pas interviewer des historiens anglais, mais proposer à des auditeurs, auditrices de passer 10 heures avec Churchill où la moitié est en traduction en surimp. C'est pas évident, c'est pas forcément un confort d'écoute, donc c'est pas évident pour nous. Mais on y réfléchit, on essaie de voir si on ne trouve pas une solution pour peut-être faire interpréter les traductions par un comédien. Bon, on est en cours de réflexion. Mais donc, voilà, ce casting-là, il est important, et je reviens au casting d'historien, parce qu'il permet, je crois, dégager une forme d'honnêteté intellectuelle et d'avoir des nuances, de la complexité, des sensibilités, et où on a le sentiment de sortir plus riche, peut-être, en ayant vu peut-être une autre vision que la sienne. Voilà.
On va entrer un peu dans l'arrière-cuisine de votre série Léon Blum, une vie héroïque. Par quoi vous avez commencé pour construire ce podcast? Quelle est la première étape de naissance d'un de vos podcasts et de celui-là en particulier?
Alors celui-là, il est un peu particulier en effet parce que... Comment dire? Au départ, c'est pas gagné.
Voilà. Pourquoi? Pour quelle raison?
Pour quelle raison? C'est qu'on a fait 4 séries précédentes sur des hits de l'histoire. Napoléon, Cléopâtre, Philippe Pétain, même Vladimir Poutine. Et là, je propose à la direction de France Inter, Léon Blum. C'est pas vraiment un hit de l'histoire. Et donc, on me pose des questions. Pourquoi tu veux faire ça, etc. Et j'avais la conviction... que Blum avait encore des choses à nous dire. Et que Blum était peut-être un totem à gauche qui était enseveli sous des contre-mémoires et qu'il fallait essayer de réactiver sa mémoire. Vous savez, Michelet, qui est un grand historien, dit l'histoire, c'est une entreprise de résurrection. Et systématique, puisqu'on fait revivre le passé. Et je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait essayer de ressusciter un peu Blum ? Voilà. Ça me tenait à cœur pour des raisons même pratiquement personnelles. Et puis Inter m'a dit d'accord. Voilà. Ce qui est aussi le luxe de cette radio, c'est que quand vous êtes convaincant, elle vous donne sa confiance. Et on s'est mis à produire cette série. Donc c'est un peu particulier parce que d'abord, il a fallu beaucoup absorber pour convaincre. Beaucoup absorber de documentation,
etc. Quand vous dites absorber, c'est faire des recherches.
Absolument.
Comment ça se passe? Quelles sont les sources que vous privilégiez? Alors, et combien de temps ça dure?
Ça dure, on va dire, 2 mois. Que je ne compte pas dans les 4-5 mois dont j'évoquais. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avec Irène et de mon côté, et parfois des stagiaires qui nous donnent un coup de main, d'ailleurs, on réunit une bibliographie, on réunit des documents, on réunit voilà, tout ce qu'on peut trouver, y compris déjà de l'audiovisuel et de l'archive sonore, qui sont très inspirants, par exemple, pour s'immerger dans une époque, c'est intéressant d'aller écouter des archives des années 30, vous voyez, des années 40, on rentre dans une matière. Donc d'abord, on absorbe beaucoup de choses, on lit beaucoup, on prend beaucoup de notes, et après, on essaye de dégager quelques problématiques importantes, et puis on établit d'abord un plan, un peu comme une dissertation, en vérité. Et dans cette dissertation, dans ce plan de dissertation, on essaye de trouver des arcs narratifs en respectant ce qu'est l'histoire. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a avec Violaine, par exemple, c'est comment est-ce qu'on insère dans ces récits scientifiques de l'émotion. Ça, c'est compliqué. L'historien se méfie à raison de toutes les émotions. Mais nous, on est là pour raconter une histoire savante, mais populaire. Et le populaire, il passe par de l'émotion. Donc, tout l'enjeu, quand on a commencé à placer sur l'établi les arcs narratifs et les grandes parties, c'est de savoir voilà, comment est-ce qu'on va jouer sur des émotions. Donc, sur quoi se termine un épisode ? Sur quoi commence le précédent, le suivant ? Donc, là, on rentre dans la mécanique, on va dire, presque romanesque, entre guillemets. Mais c'est toujours un petit péril, parce qu'on fait bien attention à ça, de rester dans le cadre. Les historiens, on ne veut pas les trahir. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils donnent leur confiance, ils donnent leur savoir, et on doit respecter ça. Donc c'est vraiment voilà. Donc on établit ce plan, et puis après, on s'y colle. Et on commence par les interviews. Voilà.
Les interviews, ça se passe en studio ?
En studio, à la maison de la radio. En général, c'est entre deux, on va dire, entre 1h30 et 2h30 d'interview. Ça dépend des invités et des calibres.
C'est vous qui les faites ?
C'est moi qui les fais, en effet. Et puis, certains viennent plusieurs fois quand il y a des biographes qui suivent la série sur le long cours. Voilà, donc ça prend un peu de temps, évidemment. Et ensuite, comment dire, là, c'est un peu compliqué à expliquer, et je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant, mais en gros, comme on a du temps, mais pas tant que ça, on commence à produire alors que les interviews ne sont pas terminées. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé de commencer à produire. Donc les premiers épisodes commencent à entrer en production alors qu'on n'a pas fini les interviews. Voilà. Donc c'est là où c'est toujours un peu périlleux, parce qu'il faut que le plan tienne la route. Voilà. Donc il faut que ce qu'on a prévu, que les invités qu'on a prévus, que les archives qu'on a prévues, ça tienne la route. Donc parfois, ça tient moins la route, donc il faut réagir très vite. Voilà.
Combien de personnes travaillent avec vous ?
Aujourd'hui, alors on a commencé à deux et demi. Et aujourd'hui, on est presque une dizaine, à vrai dire, si on regarde bien l'équipe étendue, ce qui est un vrai luxe aujourd'hui, et on en a conscience. Radio France nous soutient et nous a bien staffé quand même. Voilà, je tiens à le dire parce qu'on est bien lotis et on a quasiment doublé tous les postes, à vrai dire. Donc voilà.
Est-ce qu'on peut décrire les postes ?
Alors, les postes, il y a donc le poste de Violaine Ballet, qui est donc metteuse en onde, qui a été doublée, et donc il y a Juliette Medebiec qui nous a rejoint dans l'équipe maintenant, donc qui est un poste, quand on dit metteur en onde, c'est comme metteur en scène, ça veut dire donc la réalisation, hein, c'est-à-dire c'est à la fois la grammaire, c'est comment est-ce qu'on construit avec moi et avec nous trois, comment est-ce qu'on construit ce récit pour qu'il soit à la fois scientifique et puis presque dramatique, voilà. Donc ça, c'est le profil de metteur en onde. Ensuite, il y a Irène Menahem, qui est, on va dire, une sorte d'assistante éditoriale avec qui je regroupe les archives, la bibliographie, puis le casting des historiens. Et elle suit avec moi les interviews. En général, Irène est épaulée par des stagiaires. Voilà. Il y a Frédéric Martin, qui est archiviste sonore, on va dire, qui lui s'occupe, en effet, de chercher tous les sons qu'on lui demande pour venir illustrer et accompagner le récit. Il y a Martine Abbat, bien sûr, notre reporter, qui a un rôle, je trouve, important dans l'émission aussi. On y reviendra peut-être. Donc, qui va sur le terrain, elle, et qui va raconter autre chose. Il y a aussi des mixeurs, voilà, notamment Benjamin Orgeret, Basile Bocquer et Cédric Diallo, qui sont des métiers de Radio France. L'excellence, voilà, je le dis très simplement, mais avec beaucoup de sincérité. C'est des gens qui savent travailler, comment dire, avec une forme d'excellence, voilà. Donc ils sont avec nous aussi quasiment constamment. Et puis voilà, j'ai dû faire le tour. J'oublie quelqu'un, Violaine ? Non, je ne crois pas. Hein ? Non, non. Voilà, à peu près tout le monde.
Je trouve ça intéressant, Martine Abad, qui est donc votre reporter, qui va dans chaque série sur un lieu important ou mythique de votre personnage. Pour Léon Blum, c'est sur sa tombe, avec son descendant. Pourquoi ce n'est pas vous qui y allez ? Pourquoi vous n'allez pas sur la tombe de Léon Blum vous-même ?
Parce que je suis beaucoup moins fort que Martine Abad. Mais ce n'est pas qu'une plaisanterie. Je ne suis pas reporter. Voyez, par exemple, sur la tombe de Pétain, je ne sais pas comment je gère la situation.
Alors qu'elle Peut-être qu'on peut expliquer si tout le monde n'a pas écouté la série sur Pétain.
La série sur Pétain, moi j'ai l'idée d'envoyer Martine le 23 juillet 2021 sur la tombe de Philippe Pétain. Ce jour-là, 23 juillet, c'est les 70 ans de la mort de Philippe Pétain. Donc je me doute qu'il y aura des nostalgiques. 70 ans, ça se fête quand même. Qu'il y aura des passeurs un peu intéressants. Donc je l'envoie là-bas, toute seule, comme une grande. Et elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle approche ces gens avec une sorte de douceur. Pas de naïveté.
Qui n'est pas complaisante non plus.
Pas complaisante, mais une sorte d'honnêteté, d'intégrité, mais sans jugement. Moi, les gars, je les vois, j'ai envie de les prendre. Donc ce serait pas bien. Donc, j'ai envie qu'on discute vraiment, quoi. Donc, voilà. Et Martine, elle a cette douceur et cette finesse d'approcher ces personnages, notamment dans les deux qu'on choisit. Il y a le vieux monsieur, qui est un vrai nostalgique, et puis il y a un gars qui a notre âge, qui a 45 ans, mon âge. Elle lui fait sortir des choses extraordinaires dans ce reportage. Voilà. Et Martine, elle a ce talent-là, et c'est un vrai talent. Et puis, par ailleurs, c'est aussi en faire un personnage de la série. C'est-à-dire que ces séries-là, elles sont... On fait une série documentaire. Mais en vérité, c'est un récit avant tout. Et donc, il faut qu'il y ait des codes. Et on a Tintin. C'est Martine. Je plaisante qu'à moitié. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est très fort. Martine Abad, c'est devenu un personnage de la série. Et elle le fait très bien. Les gens, elle va aller où, Martine, cette fois ? Tout le monde veut savoir, on va aller Martine. Martine à la plage, Martine à... Donc on en rit avec elle, c'est pour ça que je fais la blague. Mais on envoie Martine quelque part. Et c'est devenu un code. Elle fait deux reportages par série maintenant. Et c'est important, parce que c'est une voix féminine aussi, qui vient aussi compléter la mienne. Alors elle est moins présente que moi, bien sûr, mais n'empêche que c'est aussi une reportrice, voilà, qu'on envoie sur le terrain. Et voilà, et je trouve qu'elle le fait super bien. Vraiment, elle le fait super bien. Voilà.
En parlant de votre voix, on va parler un peu d'écriture et de votre place à vous. On va écouter un premier extrait de l'épisode 1. Mm-hmm. Est-ce que ça fonctionne ?
Léon Blum aurait-il voulu entrer au Panthéon ? On n'en sait rien, pas si sûr. Mais pourquoi Léon Blum est-il si peu présent dans la mémoire des Français ? Ces derniers mois, quand j'annonçais qu'on allait raconter la vie de Blum, on m'a souvent répondu « Ah oui ?» C'est bien, mais je connais pas très bien. Alors, ce Blum, était-il réellement un grand homme d'État ? Et qui trouve-t-on derrière celui qu'on réduit sans cesse au Front populaire ? Faisons de l'histoire. Qui es-tu, Léon Blum ?
J'ai été surprise par ce tutoiement qui sonne presque comme un défi. Qui es-tu, Léon Blum ? Et je me suis dit que c'est un peu comme si vous cherchiez à percer le secret de la personne intime et pas du personnage politique. Et en même temps, vous dites « faisons de l'histoire » et pas « faisons une psychanalyse a posteriori de Léon Blum ». Donc comment vous avez imaginé cette introduction qui arrive vers le début de l'épisode 1 où vous tutoyez votre personnage, vous vous adressez directement à lui ?
Alors, c'est presque une question intime, mais en fait, ça fait écho à ce que j'ai dit précédemment. C'est qu'à la fois, c'est un documentaire savant, je dis savant parce qu'on a des savants avec nous, mais ça reste un récit. Et je pense qu'un récit, c'est un point de vue. C'est quelque chose qui vient de soi. C'est un rapport intime à la matière, personnel à la matière. Donc, je veux qu'on sente que chez l'auditeur, l'auditrice, chaque personnage, chaque récit, il est important pour moi et pour nous. C'est-à-dire que c'est pas juste on a pris un mec comme ça, ou « Ah bah tiens, on va faire lui ». Pas du tout. C'est qu'en fait, en créant cette intimité à travers moi, mais à travers toute l'équipe, je dis « Voilà, nous, ça nous importe. Nous, on a appris à faire de la radio comme ça. » C'est-à-dire que c'est une radio subjective, qui ne veut pas dire ni idéologique, ni malhonnête. On a un point de vue. Et on le défend. Et donc, en cherchant cette question, par exemple, de qui es-tu, Léon Blum, ça interpelle. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? On a l'impression que c'est un pote de Léon Blum, tout ça. Bon, et en fait, ça joue cette intimité. Et donc, j'y tiens beaucoup parce que c'est peut-être une sorte de marque de fabrique, peut-être, qu'on déploie avec l'équipe. Voilà.
On le sent particulièrement dans cette série. Vous êtes très attaché au personnage de Léon Blum. On sent que c'est venu gratter des choses chez vous. On le voit même dès le titre, en fait, Une vie héroïque. Mmh. Comment vous avez choisi ce titre ?
Alors, ce titre, je l'ai choisi pour deux raisons. Je vais commencer par le marketing. Léon Blum, ce n'est pas un hit. On me l'a dit. OK. Donc, il faut que je frappe les esprits. Un mec qui n'est pas un hit, qui est un héros, c'est bizarre. Donc, on se dit, pourquoi une vie héroïque ? Pourquoi il est héroïque ? C'est quoi cette espèce d'affaire de héros ? Voilà. Donc, je me suis dit, je vais taper en fort, en espérant afficher avec ce mot un intérêt, une excitation. Voilà. Donc, c'est du marketing, en vérité. Mais je l'assume assez bien, pour lui, ça va. La seconde chose, c'est que ce n'est pas complètement au hasard. C'est-à-dire que Léon Blum, dans sa jeunesse, est fasciné par des héros stendhaliens. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que Julien Sorel, c'est pour lui une sorte d'accomplissement de l'individu. Je pense que Blum, tout au long de sa jeunesse, a voulu être un héros. Un héros, c'est quoi ? C'est le courage. C'est la bravoure, la probité. Blum, c'est un héros courageux, y compris physiquement. Il va au duel, il va face à Pétain au procès de Rion. Physiquement, il est courageux. Et donc, il y a chez lui cette dimension héroïque, profondément. Et ça faisait écho, peut-être, à un désir chez lui, tout au long de sa vie, d'être un modèle, d'être une personne qui peut vous donner envie de devenir meilleur vous-même. C'est ça, un héros. Et je pense que ça lui parlait à lui. Donc, je n'avais pas le sentiment ni de le trahir, au contraire, mais de dire, voilà, ça, c'est un ressort très important chez Léon Blum.
Et en même temps, c'est aussi un personnage historique qui a été particulièrement victime de diffamation, même bien après sa mort. Dans le dernier épisode de votre série, vous parlez de quelque chose qui survient en 1960, quand le dictionnaire Larousse publie une courte biographie de Léon Blum en disant « Léon Blum naît Léon Karfunkelstein ». Or, ce n'est pas vrai. Ce nom a été utilisé par l'extrême droite pour discréditer Léon Blum, faire croire en quelque sorte qu'il était plus juif que français. On va écouter votre réaction à cette histoire.
Ainsi, en janvier 1960, dans le Petit Larousse, ressurgissent les démons antisémites dont a été victime Léon Blum tout au long de sa vie.
Ce juif allemand naturalisé n'est pas à traiter comme une personne naturelle.
Avec ce nom étranger, inventé par l'extrême droite, Léon Blum ne serait pas vraiment français. Eh bien, sachez que 66 000 exemplaires de cette édition du Larousse n'ont pu être saisis avant la décision de justice. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être dans votre grenier un dictionnaire Larousse qui porte cette infamie et qui véhicule cette rumeur dégueulasse.
Dégueulasse. C'est un mot très fort qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur France Inter, en tout cas pas à l'antenne. Est-ce que vous avez une plus grande liberté de ton parce que c'est un podcast natif ?
Non. Non, parce que ça a toujours été ma marque de fabrique. À l'antenne, j'ai toujours employé des mots d'argot, y compris quand j'étais à l'antenne aux 18h d'Inter. On me l'a souvent reproché. Mais quand je trouve que quand ils sont bien employés, au bon moment, ils disent la vie. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Donc je trouve que c'est intéressant de le dire et de l'employer. Vous savez, il y en a, et c'est avec parcimonie que je les emploie. Ils sortent, tout d'un coup, on les voit sortir. Ils deviennent saillants. Mais on doit se dire, pour qu'ils le disent, ils doivent vraiment le penser quand même. Donc du coup, je me dis, ça, je m'autorise à le penser et à le dire. Et c'est important. Ça signe aussi de là où on vient, cette école dont je parlais. L'aspérité. On m'a toujours dit, mais en fait, dis d'où tu parles. Dis qui tu es. Voilà. Dis si, quels sont tes désirs ou tes colères, ou par des mots choisis. Voilà. Dégueulasse, ça montre que je suis un peu en colère. Voilà. Et du coup, c'est pas mal. Voilà. Je trouve que ça dit aussi un peu qui je suis.
Le podcast est devenu un livre publié chez Albin Michel. Vous avez eu la gentillesse de bien vouloir partager avec nous le conducteur, le scénario du premier épisode de la série en podcast. Et je suis allée chercher le même endroit dans le bouquin. Et on va même l'écouter en même temps pour pouvoir comparer les trois.
Chant des élèves du lycée Henri IV. En 1888, Léon Blum intègre le lycée Henri IV. Il y passe d'abord le baccalauréat avec André Gide. Et ensuite, il y prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure, rue d'Ulm.
Eh bien, la voilà ta fameuse école normale.
Armé d'une exceptionnelle agilité intellectuelle et d'une excellente culture littéraire classique, Léon Blum est admis à Normale Sup en 1890. Mais il doute.
Est-il vraiment convaincu que sa place est dans cette prestigieuse école ?
Pascal Horry est historien et membre de l'Académie française.
C'est un premier de la classe, bien entendu, mais il est tenaillé par une ambition, tout à fait légitime d'ailleurs, qui est celle de ses meilleurs amis, ses meilleurs camarades, qui s'appellent André Gide, Pierre-Louis et quelques autres, c'est-à-dire la littérature.
Je trouve ça assez intéressant de voir comment vous êtes passé d'une forme écrite à une forme sonore qui ensuite est redevenue une forme écrite mais différente. Comment vous avez fait pour adapter le podcast en bouquin et utiliser ce que vous aviez en son à l'écrit ?
Alors là, je vais me retourner vers Nicolas de Cointet, qui est juste là au premier rang, qui est mon éditeur chez Albin Michel, et que je vais remercier publiquement parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Moi, je lui ai confié le podcast et puis il s'en est occupé, en fait. C'est lui qui s'en est occupé. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé, on a avancé, mais il m'a proposé quelque chose d'assez intéressant, c'est de... Au départ de cette matière sonore, il m'a dit, on va essayer de faire un livre. Mais pas juste une retranscription d'interview. Donc, par exemple, il m'a proposé d'y intégrer mes textes. Ce qu'on n'avait pas fait, d'ailleurs, sur le bouquin précédent consacré à Philippe Pétain, pour qu'on ait une sorte de fil conducteur de récit. Et puis, il a donc tout retranscrit avec ses équipes, les interviews. On les a réécrites, on les a faites relire par des historiens, bien sûr, pour une validation à la fois scientifique et, on va dire, stylistique. Et ensuite, Nicolas a réfléchi à un chemin dans ce livre qui fasse écho à ce qu'on avait travaillé avec l'équipe en son et qui ne soit pas juste une succession de questions-réponses, interviews, questions-réponses.
Voilà. Et qui n'est pas exactement le même chemin. Par exemple, là, le petit insert qu'on a en bas à gauche, en fait, c'est dans l'épisode d'avant.
Absolument.
Enfin, dans l'épisode d'après.
D'après, absolument. Et donc, l'idée, c'est que... comment dire ? Je suis à la fois très fier de ce podcast. Ce n'est pas du tout prétentieux, c'est que c'est beaucoup de travail. Et j'en suis très heureux de ce podcast. Et avec, on a passé beaucoup de temps avec Violaine sur ce podcast en particulier. Et j'avais un peu peur de confier ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais Nicolas, il a fait un travail extraordinaire qui fait que aujourd'hui, je suis très très fier de ce livre. Voilà. Je le dis parce qu'il a fait un travail iconographique par ailleurs qui est inouï.
Hop.
Et qui vient finalement illustrer le récit sonore. On peut presque prendre le livre comme un livret, hein, et on tourne les pages au fur et à mesure du récit, des 9 heures. Et on est avec l'époque, on est avec les personnages, parce que là, il y a une photo de Blum qui est très belle, mais Nicolas a choisi d'illustrer tout. Donc, vous allez croiser Philippe Pétain, vous allez croiser Daladier, vous allez croiser tous les personnages. Donc, ça foisonne d'iconographie, parfois très rare, d'ailleurs, avec des photos de Blum que je ne connaissais pas, et qui viennent, donc, ces photos qui viennent voilà, donner chair, corps et vie visuellement à ce récit puissamment sonore, j'allais dire. Voilà. Et donc, je trouve que c'est très réussi. Voilà. Donc, je le remercie publiquement. Nicolas, merci beaucoup. Voilà.
On va revenir un peu au son, avec, mais on reste autour de l'archive, l'archive sonore cette fois. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode 7, où on entend d'abord une vraie archive de Léon Blum, puis une archive écrite de Léon Blum que vous avez fait interpréter par l'acteur Charles Berling.
À bien des égards, il était à la mesure des événements et des circonstances. Parce que de cela aussi, ma femme et moi, nous avons été les témoins.
Informé de l'exécution sommaire de Mandel, Léon Blum comprend que sa mort est imminente et il rédige un testament politique adressé à son fils Robert. Un texte dense, mais inouï. Écoutez-le bien.
Léon Blum, dans son testament écrit en détention à Buchenwald, le 31 juillet 1944. Ce fond de cruauté que nous avons vu remonter dans un peuple depuis 5 ans et qui bat aujourd'hui le monde comme une marée, je suis convaincu qu'il existe à l'état latent chez tous les hommes.
J'ai trouvé la ressemblance saisissante. Comment vous avez fait le casting puis l'accompagnement vocal de Charles Berling?
Alors, le casting, il est venu assez naturellement parce que on avait contacté Charles pour incarner Philippe Pétain dans la série, une des séries précédentes, et Charles nous avait vraiment bluffé. Je dis ça parce que lors de l'enregistrement, donc il y a une cabine technique, hein, comme ici, et il y avait donc à la fois une partie de l'équipe et les techniciens, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une sorte de, comment dire, de stupéfaction face à Berling qui faisait Pétain. C'était assez incroyable, on avait le sentiment que Pétain était un peu là, c'était très bizarre. Donc on s'est dit, on va essayer de réitérer avec Blum, il a été extraordinaire, voilà, il a été vraiment extraordinaire. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'on va reparler de ce spectacle que vous avez sous les yeux, mais on a joué à Montpellier un spectacle adapté du podcast par Berling, on va en reparler. Mais ce soir-là, début juin, il y avait dans la salle l'arrière-petit-fils de Blum, qui s'appelle Antoine Malamud. Et quand Charles a commencé à jouer Blum, Antoine s'est mis à pleurer. C'était saisissant, parce que tout d'un coup, parce que la radio c'est quelque chose, mais Berling c'est un acteur. Donc sur scène il est encore autre chose, c'est-à-dire que tout d'un coup en vie, devant un grand public, il s'est mis à vibrer à la mesure de Blum, quoi. Et donc c'est vrai que bon, c'est un grand acteur, c'est-à-dire que c'est assez magique. C'est-à-dire qu'il vient, il est faussement nonchalant, faussement détendu, très angoissé comme tous les acteurs. Et bon, on va y aller, on va y aller. Et puis tout d'un coup, il y va, il se passe un truc. C'est magique. Et il a travaillé sans doute la veille, l'avant-veille. Voilà. Mais il le fait, et quand on fait play, il est incroyable.
Est-ce que vous, avec Violaine Ballet, vous lui avez fourni au préalable des archives sonores de Blum pour qu'il puisse se le mettre
en bouche ? Non, il avait tous les textes, bien longtemps avant, ça c'est sûr. Et après, lui, je sais que Pétain, il l'a beaucoup écouté, que Blum, pareil. D'ailleurs, quand on faisait les shoots, il demandait de réécouter même avant qu'on shoot. On avait des archives, nous, il voulait encore se remettre dans l'oreille les voix des personnages qu'il incarne. Mais il le fait, lui, précédemment, de son côté à lui, comme un professionnel. Enfin, voilà, donc,
Au bout d'un certain nombre d'épisodes, on finit un peu par confondre le vrai Blum et le Blum de Berling. Parfois, on ne sait pas si on est dans une archive ou pas. C'était volontaire de votre part ?
Oui, c'est volontaire. Ça revient à nouveau à ce que je racontais sur ce récit savant et récit populaire. C'est que, comme nous savons que les textes que lit Charles sont de la plume de Blum, ça ne m'ennuie pas qu'on puisse confondre une archive et Blum, voyez. Mais du coup, ça participe aussi du côté immersif. Hein, on réfléchit beaucoup à ça avec Violaine, c'est comment est-ce qu'on plonge les gens dans un univers. Et donc, si Charles réussit à vous troubler dans la frontière entre l'acteur ou Léon Blum, pour nous, c'est une réussite totale. Voilà.
Okay. Alors, moi, en podcast, il m'a troublé. Je n'ai pas vu le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Parce que ce n'est pas un spectacle normal. Voilà. Ce n'est pas un spectacle classique. C'est une pièce qui dure 10 heures, répartie en 2 soirées. Donc, il faut poser un week-end pour aller voir cette pièce de théâtre. Voilà. Est-ce que c'est le podcast joué sur scène?
Ce n'est pas complètement ça, mais un peu quand même. En fait, c'est Charles qui a eu une idée assez folle. C'est de créer un spectacle qui soit au carrefour de la radio et du théâtre. Donc, on a adapté le podcast sur scène avec Charles et Violaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais le narrateur, comme dans le podcast, je raconte l'histoire, que Charles incarne Léon Blum dans ses lectures et dans ses, dans ses moments où on a besoin de lui. Et puis, on a gardé quelques archives sonores. Violaine est à la baguette, elle fait chef d'orchestre. Et tout le reste est joué soit par des comédiens professionnels, soit amateurs.
Tout le reste, c'est les interviews des historiens.
Par exemple, mais les archives. On a tout retranscrit, les archives. Et on fait jouer Daladier, Pétain, De Gaulle à des comédiens amateurs ou semi-professionnels. On compte devenir professionnels. Il y a une chorale. On avait donc les chœurs de l'Opéra de Montpellier qui nous ont accompagnés. Et l'idée, c'est de vraiment de créer un événement théâtral participatif. C'est-à-dire qu'on voulait, avec Charles, créer quelque chose qui soit une kermesse populaire où tout le monde s'empare du spectacle. On était un peu inquiets, Violaine et moi, mais il se trouve que ça a très, très bien fonctionné à Montpellier. On a fait une date pour l'instant. On ne sait pas comment ça va se passer pour les autres, parce qu'il y en a quelques-unes qui arrivent. On va en parler pendant 2 secondes, mais ça a été extraordinaire. Alors, ça ne dure pas 10 heures. Hein. C'est-à-dire que ça dure 10 heures, mais c'est très séquencé. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait 1h30, on s'arrête, il y a un débat avec les historiens. On repart pour 1h30, on s'arrête, il y a un grand banquet républicain. On dîne tous ensemble. On a fait un dîner à 800 personnes. C'était extraordinaire. On a des photos. Voilà, c'est ça, vous voyez. Ça, c'est un bout du banquet. Mais on a tous dîné ensemble. Et on repart pour 1h30, on s'arrête, on fait un débat avec l'historien. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est magique parce que tout le monde dans le public a compris comment ça fonctionnait. Donc, tout le monde s'en empare, tout doucement. Hein. Au début, on regarde, on ne sait pas trop, j'y vais pas, je chante pas. Parce qu'évidemment, la chorale chante, donc vous êtes encouragé à chanter. Bah, vous êtes au théâtre, vous ne savez pas trop. Et puis vous chantez, vous applaudissez, vous huez, ou parce que forcément, Blum est victime d'insultes antisémites. Donc, est-ce qu'on réagit ou pas? Vous voyez? Et donc, c'était extraordinaire. Et donc, je ne sais pas si ça va se réitérer avec cette espèce d'énergie folle qui nous a étreint à Montpellier, mais on reprend une tournée à partir du mois de mai. Donc on va jouer le 24 mai à Toulon, le 1er juin à Belfort et le 15 juin à Aix-en-Provence. Ça, c'est les 3 prochaines dates. On va jouer sans doute quelques dates à l'automne. Et il est question qu'on joue à l'Assemblée nationale au mois de juin ou au mois de juillet à Paris. Là, juin prochain. Donc ça, on vous tiendra informé. Mais sachez que vous êtes tous conviés, d'une part, à venir au spectacle, mais aussi... Alors, on a une personne qui est référente, qui s'occupe de trouver... Mais tout le monde peut y participer, c'est-à-dire que tout le monde peut venir jouer sur scène avec nous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vous refait le podcast et vous entrez dans le podcast. Et vous jouez un des rôles dans le podcast. Ce qui est extraordinaire. Hein. Je vous le dis, on a vécu des moments d'émotion très fortes, voilà, avec un public qui s'est tout d'un coup emparé du récit. Voilà.
J'ai une dernière question avant de laisser la place à vos questions. Quelle mission de service public vous avez l'impression de remplir ?
Je crois que dans la charte de Radio France, la mission du service public, c'est éduquer, informer, divertir. J'espère qu'on remplit les 3. Voilà. J'espère qu'on informe, qu'on éduque d'une certaine manière, en donnant accès de manière assez facile, entre guillemets, à un savoir savant, et j'espère qu'on divertit. Voilà, j'espère qu'on répond à cette charte-là. En tout cas, c'est ce qui nous anime tous dans l'équipe, faire un récit exigeant et populaire. Voilà, j'y tiens.
Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ne soyez pas timide. Oui.
C'est sur le choix des personnes mm-hmm. que vous interrogez dans ces podcasts. Voilà, on a vu certains grands monstres sacrés de l'histoire. Évidemment, il y en a un en France qui parle beaucoup, c'est De Gaulle. On se dit, tiens, pourquoi pas de podcast sur De Gaulle en tant que tel ?
Alors, c'est un gros dossier, ça. Après, c'est évident que c'est un personnage central de l'histoire de France qui nous intéresse profondément. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le général de Gaulle qui ont été produites, beaucoup, notamment dans les fonds de Radio France. Arrive des commémorations, les 80 ans du débarquement, de la libération de Paris l'été prochain. Donc on sait, nous, déjà qu'en préparation, il y a beaucoup de choses, en télévision, en radio, etc. Donc nous, on a dit, on passe notre tour. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on y renonce. C'est-à-dire que pour l'instant, on passe notre tour, parce qu'il va y avoir un embouteillage gaulien. Donc on laisse passer la caravane. Et puis peut-être qu'après, dans 2 ans, on se dira, ben nous, on s'y colle et puis on verra bien. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous titille parce qu'on a envie de raconter De Gaulle à notre manière, enfin, comme on le fait pour les autres. Donc ça nous titille beaucoup. Mais là, on s'est dit, on va se retrouver avec une pléthore d'objets gaullistes sur la table. Bon, du coup, on s'est dit, on s'abstient pour l'instant. Oui, oui, absolument, absolument, absolument.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les prochaines séries qui arrivent, les prochains personnages dont vous allez parler ?
Alors, la suivante, elle est vraiment très différente de toutes celles qu'on a produites, puisqu'on a, comme vous l'avez vu ou entendu, on a produit que des monographies. C'est-à-dire que vraiment, c'est des personnages dans leur complexité, dans leur époque. Et là, on a vraiment changé le process narratif pour la prochaine qui sera livrée le 6 décembre. Ce sera donc en 10 épisodes, 10 heures, qui sont consacrés à 5 femmes, qui sont 5 résistantes françaises, résistantes au régime de Vichy et au régime nazi. Donc on a choisi 2 femmes illustres, Geneviève de Gaulle, la nièce. De Gaulle est une femme chez nous. Donc voilà, et Lucie Aubrac, voilà, donc les deux figures tutélaires de la résistante française au féminin, et puis 3 femmes inconnues. Et là, c'est absolument génial ce qu'on a pu faire avec Radio France, c'est qu'on est allé chercher des archives inédites, personnelles, de ces 3 femmes, et on a pu rémunérer 3 historiens qui ont absorbé cette documentation de femmes qui n'ont pas été racontées. Et qu'on va raconter nous. Donc ça, c'est pour nous, c'est un kiff total. Voilà, je le dis parce que tout d'un coup, on va faire de l'histoire en vrai, hein, avec 3 historiens parmi les 12 qui ont pris en charge 3 femmes que personne ne connaît ou presque, et avec 5 comédiennes qui du coup vont incarner ces 5 femmes. Et c'est un récit. Alors c'est pas comment dire, c'est pas un épisode une résistante. Ce qu'on a imaginé avec l'équipe, c'est que ce qui conduit le récit, c'est la chronologie. Donc on vous raconte la Seconde Guerre mondiale à travers ces 5 femmes. Et c'est ça qui est assez grisant parce qu'elles sont là toutes les 5 à chaque épisode. Et on voit où elles sont, ce qu'elles deviennent, ce qu'elles subissent en fonction de la guerre et des événements qui avancent. Donc à la fois, il y a le récit des 5 femmes, mais il y a aussi 6 historiens qui sont là pour vous raconter la guerre et le contexte. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte qu'on raconte ce que c'est qu'être une femme résistante, ou ce que c'est que l'engagement féminin. Parce que ce qui est important, c'est que ce n'est pas une galerie de portraits. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme française entre 39 et 45. On se sert d'elle aussi pour faire à la fois de la sociologie, mais aussi de l'histoire au féminin. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi la différence avec les hommes ? Hein, on parle de genre, évidemment, mais on connaît beaucoup de résistants masculins, et comment elles se définissent par rapport à cette différence sexuelle. Et c'est extrêmement intéressant. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a une des caractéristiques fondamentales chez les femmes en résistance, c'est la précocité. C'est elles qui résistent en premier. Pour des raisons très simples que vous découvrirez dans le podcast, mais c'est extrêmement intéressant. Qui sont liées au genre, d'ailleurs. Qui sont liées au genre. Mais la précocité des femmes en résistance, c'est passionnant. Et ça raconte à quel point c'est elles qui vont être à l'initiative. La plupart des mouvements de résistance sont créés par des hommes à l'initiative de femmes. Donc c'est vraiment passionnant. Donc, ça nous sert, donc c'est un récit un peu différent, mais c'est bien aussi pour nous, parce que ça nous permet de changer, d'expérimenter. Et si ça marche, on en reproduira d'autres. Après, il y a 2 autres séries qui arrivent, et je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant, malheureusement. Donc voilà. Donc voilà, frustration pour tout le monde, mais je suis désolé. Voilà. Oui.
Les podcasts que vous produisez, ça parle de personnes, ça parle de personnages directement. Bon, vous avez un petit peu répondu juste avant, mais est-ce que vous avez envie et la possibilité de non plus passer sur des personnages, mais de raconter l'histoire à travers la période ? Je comprends ce que vous allez faire un petit peu, mais bon, ça changerait l'angle certainement, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ?
Alors oui, vraiment, même ça nous titille beaucoup, mais comment dire ? Après, on a plusieurs paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte. C'est qu'on est une radio de service public, grand public. C'est-à-dire qu'on est France Inter, on est un mass média. Et donc on doit, on doit répondre à certains critères de facilité de communication, pour être très clair avec vous. D'accord ? Donc quand je dis on fait Pétain, De Gaulle, Blum, c'est facile. Si je vous dis on fait l'année 42, tout le monde dit oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être chiant ce truc. Je plaisante, je grossis le trait volontairement. Mais ça tient de ça un peu. Le truc, c'est que, à vrai dire, on adorerait faire ce que vous nous proposez. On y réfléchit beaucoup, on aimerait bien aller sur des périodes, sur des choses transversales. Donc là, avec les femmes, on est en train d'essayer ça. Et si le public répond présent, s'il y a une adhésion au projet, on va réitérer. Et peut-être aller plus vers ce que vous dites encore. voyez. J'aimerais bien qu'on aille chercher des choses un peu transversales. L'adolescence, par exemple. J'adorerais raconter une histoire d'adolescence au XXe siècle en France. Vous voyez, des choses beaucoup plus avec des historiens sérieux, un truc un peu passionnant, voilà. Mais ça, pour l'instant, on est encore un peu fébrile. Donc, on essaie de bouger un peu. Si le public est là, on va continuer à creuser le sillon. Voilà. Mais ça nous intéresse beaucoup, à vrai dire. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour.
Ici.
Je vous vois pas. Ah, très bien, pardon. Voilà. Voilà, très bien, pardon.
Merci beaucoup pour cette masterclass. Moi, je suis une fan inconditionnée du podcast. Et une des raisons pour laquelle je suis fan, c'est aussi la présence de femmes. Et la présence, j'ai l'impression une volonté affichée aussi de diversifier les figures historiques qu'on raconte. Je suis absolument ravie d'entendre le pitch que vous nous avez fait, mm-hmm, du prochain podcast. Et en fait, j'avais une question qui rejoint un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire... Est-ce que des fois vous n'êtes pas aussi confronté à des problèmes marketing quand on veut aborder des figures qui sont justement moins connues mais qu'on a envie de remettre sur le devant de la scène, parce que là on parle de femmes et on pourrait aussi penser à des personnages noirs ou métis. Enfin, je pense par, mm-hmm, exemple au Chevalier de Saint-Georges qui était
bien
un
sûr
compositeur métis, un contemporain de Mozart. Et est-ce que il y a ces tensions là de, alors il y a un personnage qu'on veut qu'on aimerait vraiment faire réémerger, mais c'est pas un hit. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des dilemmes ?
Il n'y a pas de dilemme parce qu'il y a deux raisons à ça. C'est un des grands avantages du service public, c'est que bon, le marketing, c'est de l'image, c'est pour espérer que ça fonctionne. Mais on n'est pas lié à un résultat commercial. C'est-à-dire qu'on a le droit de se vautrer, ce qui est quand même un grand luxe. Ils n'aiment pas quand on se vautre, hein, je vous rassure. Mais on a le droit. Et donc c'est une première chose. On n'est pas contraint par un résultat financier. On ne dit pas, bah, dis donc, tout nous a coûté tant, on a perdu tant, on est dans la merde. Pas du tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette radio, qui est, j'allais dire, ma maison, c'est un peu prétentieux, mais je m'y sens bien. En tout cas, donc, c'est une maison dans laquelle je me sens bien, est encore fondée sur la confiance. C'est-à-dire que Bloom, ce n'est pas un hit, hein, en vrai. Je l'ai redit tout à l'heure. Mais... Et donc, à base d'argumentation... et de, voilà, de conviction et de flamme un peu, ils finissent toujours par vous dire oui. Parce qu'ils disent, ok, t'as l'air convaincu, t'as un truc, t'y vas. Voilà, ça reste encore Radio France et France Inter en particulier. Donc c'est un vrai luxe. Je répète, c'est aussi lié au fait que voilà, on a le droit de se vautrer. Il y a des séries qui ont moins bien marché. Voilà, tout le monde espère que ça marche. Mais personne ne se dit, oh là là là, c'est l'accident industriel, c'est la catastrophe. Donc on échappe un peu à ça quand même. Voilà, en vrai.
Bonjour.
Salut. On se connaît un peu, c'est pour ça. Il était stagiaire avec nous.
Voilà. Moi, c'est une question un peu plus légère. Ce serait plutôt pour savoir, de 1, quelle était ta série, que ce soit Léon Blum, Molière, etc., où tu en es le plus fier. Bon, je pense que c'est Léon Blum. Et à l'inverse, celle où tu penses, pas le plus fier, mais plutôt celle où tu aurais voulu plus la travailler, ou où tu éprouves un peu plus de regrets.
Alors, la préférée, je crois que tout le monde a compris. Je crois que... Voilà, à peu près. J'ai un petit regret sur Molière. Voilà. Parce que c'est un peu notre... Comment dire ? Comment on l'a appelé déjà ? Oui, ça, oui, mais entre nous. non, comment dire ? C'est que c'est injuste, c'est la série qui a moins bien marché. Et parce qu'elle était peut-être un peu trop complexe, justement, pour revenir à ce qu'on se disait. Et pourtant, on y tient beaucoup. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que. Et peut-être qu'on aurait dû être plus, un peu plus généreux. Elle n'est pas vraiment chronologique, cette série. Elle est plutôt thématique, même si elle respecte une chronologie. Mais on a bien senti qu'il y avait moins d'adhésion. Voilà. Alors qu'en fait, on y raconte beaucoup de choses, à mon avis, très importantes pour comprendre le présent. Mais non, mais comment ça ? C'était il y a quand même très longtemps. Mais cette série raconte, par exemple, la naissance de la bourgeoisie. Et c'est extrêmement important, parce qu'on vit encore dans ce monde-là aujourd'hui, d'une bourgeoisie qui a supprimé l'aristocratie et qui... Voilà, c'est Molière, ça naît à ce moment-là. Et donc, on était un peu déçus parce que finalement, on a pris beaucoup, beaucoup de temps sur cette série. On a investi beaucoup de temps et on n'était pas si nombreux en plus au début. C'est vraiment une des premières séries. Donc ça nous a fait un peu de peine. Donc, si je devais la refaire aujourd'hui, j'en ferais une série sans doute peut-être plus chronologique, en gardant notre exigence de récit, mais peut-être plus facile d'accès. Voilà. J'ai un petit regret. Et quand je vois les chiffres et que je vois qu'elle est toute derrière, j'ai une sorte de... C'est un peu de Calimero, quoi. Oui, je suis vraiment désolé, Molière. C'est vraiment... On n'a pas vraiment été à la hauteur du truc, quoi. Donc, voilà. Alors que c'est un génie français, lui aussi. Oui. T'as dit quoi ? Ah ! Voilà. Ça fait un de plus. Ça fait un de plus. Voilà. Super. Une de plus. Oui. Ah ben ça, c'est un problème. C'est qu'il faut que nous... Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il faut qu'on ait une bannière qui réunisse tout, parce que c'est sûr qu'on voit bien que ça s'est éparpillé, alors que maintenant, il y a 10 séries, je crois, en tout, et je pense que tout le monde ne connaît pas les 10. Donc il faut qu'on trouve un moyen que tout le monde soit au courant que ça existe. Voilà. Il y avait une question de monsieur, oui, là-haut.
Oui, juste ici. Merci beaucoup pour cette conférence.
Je vous en prie.
J'aurais aimé savoir, vous l'avez dit, que Léon Blum, c'était votre série préférée. C'est aussi, si j'ai bien compris, une série qui a extrêmement bien marché, alors que ce n'était pas forcément le personnage historique le plus en vue.
Oui.
Comment vous expliquez un peu ce paradoxe ?
Si j'avais la réponse exacte, je serais très heureux. Je crois que... Ah, Mathilde, je t'en prie.
Moi, je pense, en tant qu'auditrice et journaliste qui travaille sur le podcast, je pense qu'elle a eu beaucoup de succès, déjà parce qu'on ne le connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais son nom, je l'avais vu dans des livres d'histoire au collège, mais à part ça, je ne savais pas qui c'était. Et c'est plus facile de surprendre les auditeurs avec un personnage qu'ils ne connaissent pas qu'avec quelqu'un qu'ils ont étudié en long, en large et en travers, comme Molière ou Napoléon. Donc, c'est sûrement pas la seule réponse. Mais par exemple, moi, quand dans le premier épisode, vous dites qu'il a été déporté à Buchenwald, qu'il a été à la tête du gouvernement, non pas une, mais deux fois, c'est des choses que je ne savais pas ou que je ne me rappelais pas. Et donc, je me suis dit, ah ouais, putain, hyper intéressant. Mais... Et puis, il y a cet angle du « mais pourquoi on ne s'en souvient pas ?» Ce qui est un petit peu le fil rouge de toute la série, qui marche très bien et qui est très bien trouvé, parce que moi, c'est la première question que je me suis posée en écoutant, et vous aussi, très certainement. Donc, je pense que c'est plus facile de faire un hit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Je suis très d'accord avec ce que vient de dire Mathilde. Je pense que c'est un des ressorts du succès. C'est une surprise. Transpartisane, ça qui est intéressant, c'est qu'on a surpris à gauche, on a surpris à droite. Donc c'est vraiment intéressant parce que tout d'un coup, on a vu un retour d'auditeurs de droite qui dit « Ah mais attends, il est super ce Blum !» Donc c'était assez intéressant. Mais c'était intéressant d'avoir ça comme retour. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et je pense que ça dit aussi le monde dans lequel on vit, de ce qu'on peut apercevoir dans les retours qu'on a, nous, c'est qu'il y a sans doute une gauche qui est un peu orpheline de totems, de nuances, de complexité. Et je pense que tout soudain, Blum a pu ressurgir dans cette population française, pour faire vite ex-SFIO, se dire « Ah, mais quand même, il y a Blum. Il y a Blum quand même. » C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être une matrice, peut-être, voilà, dans une partie du public qui nous a écoutés. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette série-là, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché au bouche à oreille, de manière inouïe. C'est une grande chaîne de bouche à oreille. Et donc on s'est dit, ben, qu'est-ce que ça dit ? Ben, soit la surprise à droite, et aussi à gauche sans doute, mais aussi, écoute ça, parce que on vient de là, entre guillemets. Ça peut être aussi une manière de nourrir une sorte de vacances, peut-être, pour certains. Et je ne dis pas que c'est la solution. J'essaie d'expliquer comment ça a pu marcher. Voilà. Aujourd'hui, il est en effet... c'est incroyable, c'est incroyable. Ce qui se passe autour de ce podcast, c'est assez incroyable, à vrai dire.
Voilà. C'est l'heure de se quitter, mais si vous voulez continuer la discussion avec Philippe Collin, il est donc en dédicace du livre Léon Blum, une vie héroïque chez Albin Michel au deuxième étage au foyer moderne. Donc il faut traverser le hall et puis prendre l'escalier orange. Et voilà. Merci beaucoup. Merci
Mathilde. Je prends deux secondes. Je remercie Mathilde, voilà, avec qui on a bien travaillé pour préparer la série. Je remercie Nicolas de Cointet à nouveau pour ce livre dont je suis très fier chez Albin Michel. Et j'ai un grand merci pour Violaine Ballet. Qu'on va applaudir d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Merci Violaine. Merci beaucoup. Voilà. Merci.